Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme d'Urbanité de novembre, un éditorial sur l'appropriation, la belle rencontre avec Elisabeth Essayant et le sujet qui fâche avec l'architecte Francis Landron, comment construire selon ses convictions.
Urbanité, l'édito.
Les Maisons de l'architecture s'est tenue à Clermont-Ferrand le 5 novembre avec comme thème de l'appropriation à la réappropriation. J'ai eu le privilège d'ouvrir la journée avec un exposé étymologico-théorique sur la notion d'appropriation, ses significations pour les sociologues, faire sien, pour les psychologues, les anthropologues, les philosophes, devenir autre au contact d'eux, et bien sûr, évidemment, les architectes. Parfois, ce que l'architecte envisage pour loger les habitants est refusé par leur destinataire, qui n'hésite pas à rectifier le plan, à ouvrir des nouvelles fenêtres, à réorganiser la disposition des pièces. Il s'approprie l'architecture qu'il refuse en la remodelant. Vous connaissez certainement la cité Frugès à Pessac, que Le Corbusier a dessinée en 1924. 51 maisons selon 7 plans types. Elles seront toutes modifiées par leurs habitants. De même, les maisons réalisées pendant la Seconde Guerre mondiale par Hassan Fatih au Nouveau Gournat près de Louxor, destinées à des pilleurs de tombes, seront vidées de leurs tuyauteries et sanitaires revendues au marché local, tout comme les portes en marqueterie qui seront remplacées par des portes à métallique, signe de la modernité. L'auteur de « Construire avec le peuple », publié en 1969, a plutôt construit pour un peuple imaginaire qui a rejeté ses habitations. Ce n'est pas le cas de l'architecte anarchiste italien Giancarlo De Carlo, qui réalise pour une anthropologie des métallurgies à Terni un ensemble de logements sur la base de la participation. Bref, se souvient-il, la participation a été lente à démarrer, mais elle a été particulièrement enrichissante. Je critiquais les propositions empruntées à tel ou tel feuilleton télévisé. Les participants exigeaient tel ou tel aménagement particulier et en concertation, nous avons conçu cet ensemble de logements. Le premier accord a concerné la taille des maisons, pas plus de 3 étages. Des appartements ouvrant sur de vastes terrasses avec un accès direct à un jardin privatif. Ce dernier point a été techniquement difficile à concevoir. Le principe du jardin suspendu n'étant guère facile, ce qui explique qu'aucune maison ne soit semblable, car j'ai dû les combiner de manière à orienter les logis pour éviter les vis-à-vis et pour les ouvrir sur le jardinet. J'ai beaucoup appris en écoutant les doléances des habitants. Je me souviens avec émotion de cette femme qui m'a expliqué l'importance de la fenêtre. Le même Giancarlo De Carlo, m'avouant qu'il n'avait pas assez pris en considération ce rapport au monde, à la terre, au cosmos. Oui, tout être humain cosmosise. Pour rester un instant sur la fenêtre, nous savons que l'architecte américain Frank Lloyd Wright ne les ouvrait pas n'importe où, dans ses maisons usoniennes. Elles cadraient un paysage à la hauteur d'un observateur assis. Quant à Louis Kahn, lors d'un atelier, il questionne un étudiant qui, sur la façade d'un immeuble, avait placé de manière très très régulière ses fenêtres sur les raisons d'un tel choix. Et devant son désarroi, il lui conseilla d'écouter le mur pour savoir si ce dernier réclamait ou pas une fenêtre. Lucien Kroll a expliqué que la participation consistait à expliciter ce que les habitants n'arrivaient pas à dire, à formuler. Ni eux ni lui ne savaient participer. Cela ne s'apprenait pas, ni dans une école d'architecture, ni dans un cours de communication. Il fallait savoir perdre son temps lors de la soirée où les paroles tardaient à circuler. Puis, petit à petit, lors des choses inaudibles, disons-le ainsi, se faisaient entendre. Et l'architecte, attentif évidemment et en même temps attentionné, s'en imprégnait. Ainsi, à Auxerre, il réalise 100 maisons différentes pour 100 familles différentes dans le quartier des Brichères avec Serge Renaudy. Chacune voulant par exemple une porte particulière, d'où l'installation d'un atelier de menuiserie sur le chantier et la fabrication de ces portes sur mesure, pour un prix inférieur à des portes standardisées. Près de 20 ans plus tard, personne n'a déménagé et lorsque les parents meurent, malheureusement, les enfants se chamaillent pour obtenir le logement. Là, je crois qu'on peut parler d'appropriation. N'est-ce pas aussi ce que Patrick Bouchain réalise à Boulogne-sur-Mer, dans le quartier Chemin Vert, avec une jeune diplômée en architecture, Sophie Ricard, qui loge sur place et qui montre pour démontrer qu'il est possible de réhabiliter sans expulser les habitants pauvres de ces 60 maisons édifiées en 1972. Des architectes médiatiques ont proposé de les détruire et d'y édifier une barre. Patrick Bouchain loue une maison, 5 rue Auguste Delacroix. Il loge l'architecte qui va rattaper cette maison tout en parlant aux voisins. C'est une permanence architecturale. Elle dure 2 ans. Les habitants n'en reviennent pas. Ce sont eux qui décident ce qu'ils veulent comme revêtement, équipement, amélioration. Le tout pour moins cher que n'importe quelle nouvelle construction. Et fait par des artisans locaux qui généralement sont même amis ou parents des habitants. Sophie Ricard n'a pas obtenu son HMO, le jury ne considérant pas que ce travail-là était de l'architecture. C'était il y a 10 ans. Je tairai le nom des membres du jury. Pour qu'une architecture facilite l'appropriation, elle doit répondre au cas par cas, aux sur-mesures et au « avec les habitants et le vivant ». Elle s'émancipe des normes et autres règlements contraignants et n'assure en rien une plus grande habitabilité. Elle facilite toute modification dans le temps, accepte la réversibilité et la mutabilité. Elle accompagne l'émancipation des habitants et non leur normalisation selon des conditions de vie édictées par la société consumériste. John Turner, dans Freedom to Build, publié en 1972, écrit « Lorsque les occupants contrôlent les décisions importantes et ont licence d'apporter leur contribution à la conception, à la construction ou à l'administration de leur habitat, tant ce processus que l'environnement, qui en résulte, stimule le bien-être individuel et social. » En revanche, lorsque les gens n'ont ni pouvoir d'intervention ni responsabilité dans les décisions clés concernant leur logement, les milieux d'habitation peuvent au contraire faire obstacle à la satisfaction de l'individu et devenir un fardeau pour l'économie. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser l'habitant constructeur, pas plus que l'habitant paysagiste étudié naguère par Bernard Lassus, mais de reconnaître que plus on est soucieux de l'habitant, plus celui-ci exprime son habilité, et son savoir-vivre, trop souvent méprisé. Un bâtiment considéré comme vétuste et inhabitable peut être réhabilité d'une manière incroyablement méritoire et devenir un ensemble de logements appréciés par tous les habitants. De nombreux exemples en témoignent, il n'est pas toujours nécessaire de démolir, bien évidemment. C'est là où le nouveau BTP, bois, terre, paille, intervient avec la souplesse constructive et la performance des matériaux biosourcés, tout en réactivant des savoir-faire artisanaux en voie d'extinction. L'appropriation se combine très bien au vernaculaire, ce qui n'est pas le cas du béton armé, dont une tonne produite génère, paraît-il, une tonne de CO2. Dorénavant, l'appropriation accompagne l'écologisation de l'acte de bâtir, acte qui ne concerne pas exclusivement du neuf.
Urbanité, la belle rencontre.
Avec Elisabeth Essayant pour son ouvrage imposant, au titre énigmatique, mais nous allons bientôt en savoir plus, Le prolétariat ne se promène pas nu, Moscou en projet, publié aux éditions Parenthèse. C'est un livre de 288 pages avec plus de 300 illustrations dont certaines sont en couleur et qui vaut, je l'indique, 36 euros, ce qui n'est pas cher. Bolchevique. Architecte et historienne, ancienne pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, prix de la thèse de l'Académie d'architecture, vous enseignez, Elisabeth, à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et vous venez de publier un magnifique ouvrage abondamment illustré. Alors, comment vous êtes venue cette idée? Pourquoi vous travaillez sur ce thème? Est-ce des origines familiales?
Alors oui, bien sûr, les origines familiales l'expliquent, parce qu'effectivement je viens d'Union soviétique, j'ai immigré en 79, hein, et j'ai habité d'ailleurs dans un bâtiment de la période stalinienne, donc certainement un besoin de retourner refouiller cette histoire, enfin, cette période qui effectivement traverse à la fois à la fois mon histoire personnelle, mais au-delà de ça, aussi une rencontre avec Jean-Louis Cohen qui a beaucoup aussi déterminé cet intérêt.
Vous pouvez dire qui c'est, parce que...
Oui,
bien sûr. Il est très connu, mais néanmoins.
Donc Jean-Louis Cohen, architecte, historien, sur plusieurs
dont,
sujets.
Dont l'Union soviétique.
Dont l'Union soviétique, effectivement.
Parce que lui-même parle russe.
Il parle russe, effectivement. Et il vient un peu dans l'affiliation aussi d'Anatole Kopp.
Alors voilà, on va peut-être pas parler de ces deux-là, on va plutôt parler de quelqu'un qui est nouveau, du moins pour moi, qui est Vladimir Paperny. Qui est-il ?
Alors, Vladimir Paperny, effectivement, dont je parle, à qui je rends aussi hommage dans ce livre, est une figure tout à fait particulière et qui est inconnue, malheureusement, pour le moment, du public francophone. C'est un historien d'architecture qui immigre en 79 aux États-Unis et qui, juste avant son émigration, donc, écrit ce travail qui s'intitule Culture 2, qu'il va publier en 1985 dans un samizdat. Donc c'est un livre qui va circuler un peu sous manteau, de manière un peu confidentielle, avant d'atteindre une publication très tardive en 1996 en Russie, et depuis est devenu un best-seller et traduit uniquement en anglais en 2002 et toujours pas en français. Alors c'est un livre qui est tout à fait impressionnant parce qu'il brasse, à l'époque tout au moins, si on se replace dans le contexte d'accès aux documents, il brasse un corpus tout à fait considérable de textes juridiques, littéraires, cinématographiques, architecturaux et politiques aussi, évidemment. Et il propose un modèle de lecture qui est basé sur l'opposition de deux cultures, ce qu'il nomme la culture 2, qui correspond à des valeurs exprimées de centralité, de hiérarchie, de verticalité, et de culture 1 qui, au contraire, se traduit par l'horizontalité, la dispersion, l'absence de hiérarchie, justement. Et une lecture beaucoup plus fine, évidemment, que ce que j'en dis en deux mots, mais qui, on peut dire, aujourd'hui a encore une actualité avec le retour de la centralité très, très marquée avec, évidemment, l'arrivée au pouvoir de Poutine. Alors, j'ai une bonne nouvelle parce que c'est un ouvrage qu'on a pour projet de publier aux éditions de la Villette. Donc je pense que d'ici 2 ans, le public français va pouvoir le découvrir.
Alors, ce Vladimir Paperny, est-ce qu'il prend position personnellement sur le débat, par exemple, prenons-en qu'un débat, le débat qui opposait les urbanistes aux désurbanistes, étudié justement par Anatole Kopp?
Alors justement, peut-être que la grande distinction par rapport à Anatole Kopp, et peut-être je reviendrai sur Anatole Kopp un peu plus longuement, c'est une non-prise de décision de débat. Enfin, vraiment, l'objet du livre de Paperny, c'est vraiment de décortiquer un peu à la fois les mécanismes et regarder ça à travers ce prisme de comparaison, et plutôt dans un temps plus long, dans une sorte d'alternance cyclique de ces deux cultures. Donc justement par rapport à Anatole Kopp, qui a eu comme justement tendance, je pense, beaucoup à prendre position, notamment avec sa défense très poussée du mouvement moderne, qui a quand même influé sur sa position de chercheur, ce qui n'enlève rien au demeurant à l'importance évidemment de son apport, parce qu'il a quand même assemblé et fait traduire quand même des textes qui n'étaient pas accessibles à l'époque, assemblé aussi une documentation visuelle aussi assez importante. J'ai classé ses archives, donc j'ai une très très bonne vision sur ce qu'il a utilisé, c'est ce qu'il a mis aussi de côté. J'ai la double vision.
Alors, votre livre a un sous-titre qui concerne Moscou. Oui. C'est à dire vrai le gros du contenu du livre, bien sûr. Et alors là, malheureusement, on va parler peu de temps. J'avais posé 3 questions, tout simplement. Oui. La première, c'est celle un peu des influences étrangères. Parce que ces architectes de la période révolutionnaire, ils ont une préhistoire, j'allais dire. Ils ont été peut-être en France, en Allemagne, je ne sais pas où, etc. Et puis, ils avaient étudié quelque chose. Ils avaient peut-être des maîtres qui insistaient plutôt sur un tel que sur un autre. Alors, il y a un auteur qui est fréquemment mentionné dans votre livre, c'est Ebenezer Howard, le créateur des Garden City. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les autres, et puis même lui-même, comment il a été traduit en russe, depuis l'anglais, je crois, ou de l'allemand, enfin, vous allez tout vous expliquer.
Alors, par rapport à la circulation des modèles, évidemment, les modèles circulent, enfin, les Russes voyagent, il y a notamment, évidemment, les grandes expositions universelles où les Russes viennent, se renseignent, ils écrivent beaucoup, notamment sur ce qui se fait aux États-Unis, même si c'est quand même l'Allemagne, longtemps, qui reste un peu les lunettes à travers lesquelles on regarde les exemples, les Allemands traduisant eux-mêmes beaucoup, donc il y a beaucoup de traductions qui sont effectivement depuis l'allemand. Alors pour ce qui est du modèle de la cité-jardin, de fait, c'est un modèle qui va être beaucoup regardé, mais qui va être regardé par un passeur, en fait, très particulier, qui est Vladimir Semyonov, qui est aussi une figure qui va être très importante dans mon dans mon travail, puisqu'il va ressortir en 1932 comme un acteur important du plan de 1935. Et il se trouve que ce Vladimir Semionov va partir en 1908 en Angleterre, parce que sa femme a des activités révolutionnaires. Il va s'exiler en fait, pendant 5 ans en Angleterre et va travailler auprès de Unwin sur la cité-jardin Letchworth. Donc il va profiter évidemment pendant ces 5 ans pour voyager, pas seulement rester évidemment en Angleterre. Donc il assiste aussi à la Town Conference de Londres. Donc voilà, il est très très renseigné sur ce qui se fait, ce qui fait qu'il devient aussi celui qui va diffuser les différents modèles, dont celui de la cité-jardin, qu'il va montrer notamment très abandonnement dans un ouvrage qu'il publie en 1912, qui peut être considéré un peu comme le premier manuel d'urbanisme, l'aménagement des villes, et où il confronte notamment, par exemple, le modèle de la cité-jardin à la pauvreté des lotissements de datcha russes. Et en 1913, un an après, il réalise lui-même une cité-jardin à côté de Moscou, Prozorovka, qui est une vraie cité-jardin, c'est-à-dire vraiment de l'habitat et des équipements, gares, écoles, etc. En revanche, bon, là c'est avant la Révolution, après la Révolution, justement ce modèle de la cité-jardin, au départ, paraît vraiment comme le modèle le plus pertinent pour répondre à la différence, à la volonté d'effacer la différence entre la ville et la campagne, et même au point où on va dire que le modèle de la cité-jardin est même le plus pertinent en URSS, parce qu'il y a le contexte de l'abolition de la propriété du sol, et la nationalisation du sol devrait le rendre en fait tout à fait développé et généralisé, ce qui ne va pas du tout se passer, parce qu'il ne va pas du tout se généraliser en réalité.
Et pas seulement à Moscou, ailleurs non plus.
Ni à Moscou, ni ailleurs. Il y a une seule cité-jardin qui va être réalisée à Moscou, la cité-jardin Sokol, qui n'est pas du tout d'ailleurs une cité-jardin pour des ouvriers, c'est une cité-jardin pour l'élite politique et artistique, hein, parce que c'est une coopérative, au fait, donc il faut le payer. Ouais. Et aussitôt sortie de terre en 1930, en fait, elle est réalisée entre 23 et 30, le modèle déjà de maison individuelle est déjà critiqué pour son côté petit bourgeois, de modèle capitaliste, et finalement ça restera l'unique réalisation qui emprunte à ce modèle. Ouais.
Alors vous expliquez très longuement et magnifiquement les plusieurs projets autour de Moscou. On va en prendre un ou deux, peut-être Moscou la verte.
Alors Moscou la verte, en réalité, c'est pas un projet
sur la ville elle-même. Hein.
Oui, alors c'est un projet très particulier parce qu'effectivement il y a eu d'autres projets qui sont réalisés dans les ateliers d'État ou qui sont des commandes étatiques, on va dire. Alors la ville verte, c'est un concours. Qui est un concours réalisé pour réaliser des sanatoriums à côté de Moscou. Donc c'est pas un concours pour Moscou. Et en revanche, Moïse Ginsburg et Mikhail Barsh qui vont proposer, c'est le projet le plus connu, la réponse la plus connue, vont se servir au fait de ce concours pour le dévier et pour annoncer que c'est absolument absurde de créer une ville verte à côté de Moscou. C'est une sorte de réponse palliative, alors qu'il faudrait une réponse prophylactique. Et pour eux, la réponse prophylactique, c'est laisser se désagréger, en réalité, ce qui existe déjà à Moscou, laisser se disperser un peu ses fonctions sur l'ensemble du territoire. En réalité, ils sont totalement dans la continuité des positions auxquelles ils adhèrent à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs avant, des positions exprimées par ce qu'on a appelé les désurbanistes, qui effectivement prenaient la suppression de la ville et la dispersion de l'ensemble de ses fonctions sur le territoire large.
Large.
Voilà, très large.
Il y avait aussi la position de Vladimir Spinonov avec, alors là je prononce très mal, vous allez me corriger, le Kvartal.
Alors, le Kvartal.
Ouais, merci.
Alors, le Kvartal, c'est plutôt. En réalité, le Kvartal, c'est un terme neutre. Enfin, ça veut dire îlot.
Hein. Ça veut dire îlot.
Ça veut dire îlot, tout simplement. Enfin, c'est un terme tout à fait ancien, qui n'a aucune connotation, qui ne renvoie pas à une forme particulière. Il se trouve qu'effectivement, dans le cadre du plan de 1935, on va revenir à la réaffirmation de l'îlot, ce qui, on peut dire, dans le cadre d'un contexte de nationalisation du sol, peut être un peu absurde, puisqu'on peut dire que l'implantation non périmétrale est assez adéquate par rapport au contexte foncier. Mais dans le cadre du plan de 1935, puisque c'est un plan qui opère par, on va dire, réactivation du modèle d'urbanisme classique, avec des grandes avenues, des grandes unités bâties. Justement, le quartal devient aussi synonyme d'une unité bâtie, d'une forme, en fait, et non pas seulement d'un îlot quelconque. Et effectivement, ce quartal va être conçu suivant un principe périmétral, avec une très, très grande dimension de 9 à 15 hectares. 9 à 15 hectares, c'est, si on compare, par exemple, à des HBM parisiennes, on peut en mettre 3 à 5 HBM, je pense, dans 9 à 15 hectares. Donc, ça donne quand même la dimension ce nouvel objet, cette unité bâtie, dont la longueur est calculée en fonction de la vitesse de voiture, pour que la voiture puisse à la fois rouler rapidement, mais en même temps freiner au carrefour. Et donc, les carrefours sont déterminés par ces 500 mètres de côté. Et ce quartal est donc organisé autour d'un square végétal. C'est un des éléments de la composante verte du plan de 35. Et donc, c'est un grand square végétalisé à l'intérieur, le bâti en périmètre et un certain nombre d'équipements qui vont réintégrer donc, cette unité bâtie, les crèches, les jardins d'enfants, etc.
Alors, il y a un personnage qui est majeur, visiblement. C'est Lazar Gacanovitch, qui est né en 1893 et qui est mort en 1991, pratiquement centenaire. Et c'est lui qui a le plus de références dans votre index. Et puis, c'est aussi lui qui donne le titre.
Tout à fait. Alors, Lazar Gacanovitch, c'est un personnage évidemment très central, pas seulement pour mon livre, mais pour toute l'histoire de la période stalinienne, puisque c'est, on peut dire, presque le bras droit de Staline. D'ailleurs, sur la couverture de mon livre, on les voit tous les deux sur le fond du plan de 1935. Et il se trouve qu'effectivement, dans le cadre de ce projet d'urbanisme, c'est lui qui va être chargé entre 1932 et 1935 de diriger la commission à l'architecture et à l'urbanisme. Et donc, ça va être un peu le maillon entre Staline et les architectes. D'ailleurs, il joue très très bien sur les deux tableaux, il essaie de contenter tout le monde, donc il est particulièrement habile dans cet exercice. Mais de fait, quand on regarde les archives, parce que le travail que j'ai fait, c'est vraiment un travail basé sur un très très important corpus d'archives, auquel j'avais surtout accès à l'époque, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. Et donc, Gacanovitch, on voit très bien que vraiment, il s'engage d'une manière très, très forte dans l'élaboration de ce projet. Alors, effectivement, en donnant des prescriptives aux architectes, même s'ils sont un peu flous au départ, mais le titre auquel vous faites référence, le prolétariat ne se promène pas nu, effectivement, vient d'une citation de Gacanovitch où il dit qu'il faut que, en gros, le prolétaire soit habillé et que s'il a mis une cravate, une veste, il va marcher de manière plus joyeuse. Il y a quand même vraiment un retour vers l'architecture habillée, vers l'architecture parlante, qui clairement exprimé dans le discours, sans que ça se traduise notamment dans des prescriptions architecturales. On reste très très flou dans la première période, tout au moins tant que les bâtiments ne commencent pas à sortir de terre ou être vraiment dessinés autour des prescriptions.
Alors c'est la fin quand même, je pense, des appartements communautaires, c'est la fin de peut-être pas eu non plus beaucoup, mais de tentatives justement de partager les logements. Là, dans le plan 35, si je me souviens bien ce que j'avais lu chez Anatole Kopp, les immeubles contiennent des appartements qui ont une chambre de bonne.
Alors
que la lutte des classes est terminée, avait dit Joseph Staline au même moment.
Oui, alors ce n'est pas la fin des appartements communautaires, c'est la fin des projets de maisons communes.
D'accord.
Ce qui
n'est
pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que les maisons communes, de fait, c'était un programme qui défendait plutôt la réduction vraiment, et qui correspondait effectivement à la condition catastrophique de crise de logement dont les soviétiques héritent déjà de la période tsariste et qui ne vont que augmenter pendant toute la période soviétique. Et donc, c'est une réponse économique pour justement regrouper les logements et sortir un certain nombre de fonctions de l'appartement, comme la cuisine et d'autres fonctions. Effectivement, dans le cadre du plan de 35, on revient vers une cellule familiale. On n'est plus dans la critique de la famille telle qu'elle a pu être amenée dans les années 20 et puis évidemment par Marx et Engels auparavant. Et donc l'appartement devient très grand. Je précise, il est dessiné très grand, avec des très larges couloirs, des très grandes pièces, la cuisine, effectivement, une pièce parfois pour les domestiques. Et en revanche, ce n'est pas du tout la fin de l'appartement communautaire, puisqu'il s'est dessiné comme ça, mais en revanche, c'est logé par des familles. le dispositif de couloir, en réalité, va faciliter justement de les transformer en appartements communautaires immédiatement, et non pas transformer a posteriori, mais de loger plusieurs familles. Donc il y a une sorte de, comment dire, de réalité dessinée qui ne correspond absolument pas à la réalité vécue. L'appartement communautaire perdurera jusqu'à la fin du régime soviétique. Il y en a encore aujourd'hui.
Alors justement, parlons d'aujourd'hui. Moscou d'aujourd'hui, que vous connaissez, est-ce qu'on y trouve encore des traces de tous ces débats, de toutes ces réalisations même des années 20 et 30?
Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que d'une part, on peut dire que la structure elle-même, telle qu'elle est impulsée avec le plan de 35, on peut quand même la comparer un peu à l'urbanisme haussmannien. Donc, elle a vraiment laissé des traces parce qu'il y a cette redéfinition du réseau vier avec vraiment une réduction très, très forte du réseau, avec ces grandes unités bâties. Ça, effectivement, il y a une très forte transformation du tissu urbain à cette époque-là. Et donc, il y a des réelles traces encore aujourd'hui. Il y a le patrimoine que vous évoquez des années 20-30 qui a été quand même très très mal mené, hein, à la fois par le régime soviétique parce qu'il était très très mal entretenu, et puis aujourd'hui il a parfois été détruit et parfois mal restauré. En revanche, ce qui a vraiment, je pense, beaucoup changé dans le tissu post-soviétique, c'est justement ce tissu que Paola Vigano a reconnu cette qualité de porosité, qu'elle s'est beaucoup reconnue dans ce tissu qui correspondait finalement au regard qu'elle porte sur la ville et sur la capacité de la ville à se renouveler, et parce que même, enfin justement, à l'époque soviétique, il y avait ces grandes façades, à l'époque stalinienne, derrière lesquelles, en réalité, beaucoup de choses perduraient, et on pouvait traverser la ville de part en part, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce qu'avec la privatisation du sol, la ville s'est complètement refermée de l'intérieur, et donc finalement, presque, j'ai envie de dire que, tout au moins dans le centre historique, évidemment, cet urbanisme de la période stalinienne est beaucoup plus visible, parce qu'on ne le voit, on ne le perçoit plus que comme, justement, il a été dessiné, c'est-à-dire à partir des grandes voies. Et on ne voit plus les arrières qui sont en fait des arrières de bricolage et d'assemblage avec l'existant qui n'étaient pas nécessairement visibles depuis les artères principales.
Merci beaucoup.
Dans ma ville on traîne entre le béton, les plaines, dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades. Traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades.
Urbanité. Le sujet qui fâche.
Comment construire en respectant ses convictions? Voilà la question que je vais poser à Francis Landron. Tu es architecte depuis 1997 et dans la plaquette qui présente ton agence Cadre de vie née en 2008, je peux lire. Le rapport d'altérité fonde notre travail. Le principe d'un développement soutenable guide notre pratique du projet local. La rigueur méthodologique appuie notre volonté de conduire le projet avec les maîtres d'ouvrage sur les valeurs et orientations partagées. Est-ce que tu peux revenir sur chacune de ces qualités exigeantes?
Oui. D'abord, merci de m'accueillir. C'est la phrase la plus dense de la présentation qui essaye de résumer un peu l'avancée de ma pensée sur le sujet. En premier lieu, c'est le rapport d'altérité. C'est la question de l'autre, en fait. La question qui m'importe peut-être le plus, c'est à savoir qu'on a, en fait, à chaque fois, quelque autre chose et d'autres personnes et d'autres lieux à gérer, et que c'est dans ces rapports de reconnaissance et d'accueil de ce qui est autre que j'aime travailler et j'essaie d'évoluer. Voilà. Pour le principe du développement soutenable pour arriver sur une action locale, là je pense que ça rejoint les questions qui nous de notre maison commune qui est en train de brûler, selon le GIEC, qui nous l'a encore annoncé en août dernier, je crois, et où il y a urgence en la demeure, il faudra prendre des mesures assez rapides et, d'une part, et soutenables. Et j'ai changé le terme durable par soutenable. Parce
heureusement.
Voilà. Et ça nous invite aussi à agir localement autant que faire se peut avec nos moyens respectifs, en ayant conscience des objectifs globaux qu'on a à réaliser. La rigueur méthodologique, alors ça c'est un travail constant, puisque chaque sujet, chaque lieu, chaque demande nécessite presque une attention dans la manière dont on va essayer de faire congruer l'ensemble des choses à faire congruer pour arriver à un établissement, arriver à quelque chose de construit. Et donc ça, c'est une nécessité, je dirais, sans arrêt à remettre sur le métier pour essayer d'obtenir quelque chose qu'on appelle mener à bonne fin l'ouvrage. Voilà.
En fait, ces trois qualités n'en font qu'une, de certaine façon, parce qu'elles s'entremêlent.
Oui.
Forcément, le principe de développement soutenable, entre guillemets, c'est une méthode aussi,
oui.
D'une certaine manière, et puis le rapport d'altérité également. Il y a une autre phrase importante dans cette petite plaquette, c'est la suivante. Francis Landron travaille sur des lieux à forte dimension sociale, tels que l'accueil dans la ville des gens du voyage, les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, les lieux de soins et de fin de vie, de la justice et d'accueil des démunis. Son architecture cherche l'efficience du service rendu. Avec des procédés constructifs écologiques, elle porte une grande attention à offrir un environnement en relation harmonieuse avec les besoins et désirs des usagers, ainsi qu'avec les lieux qu'ils transforment. Alors là, ça mérite quelques commentaires.
Oui. En fait, c'est le fait que je travaille à ces sujets-là, c'est qu'à un moment donné, j'étais plutôt salarié. Je m'y trouvais très bien, d'ailleurs je développais les choses qui m'intéressaient et puis il s'est avéré que je me suis installé. D'ailleurs le premier atelier s'appelait atelier d'architecture topique, dans l'idée d'essayer de faire une architecture topique à propos. Et donc près d'un peu plus de 10 ans d'expérience, je me suis dit où est-ce que je vais mettre les compétences que j'ai acquises au sein du cabinet dans lequel je travaillais auparavant. Et je me suis dit, il va falloir... Je pense qu'il y a eu urgence aussi sociale. C'est-à-dire que je pense qu'il y a l'augmentation des inégalités aggrave des phénomènes que j'ai vu apparaître. Moi, je suis originaire de la banlieue, que j'ai vu apparaître de plus en plus en traversant cet environnement-là. Et voilà, je me suis plutôt intéressé à des questions sociales plutôt qu'à d'autres questions. Et je suis allé chercher les commandes de cet ordre-là. Et les procédés constructifs, c'est plutôt la question qui rejoint le développement durable. Voilà. Et après, la question de comment réussir à transformer les lieux. C'est-à-dire la question d'être topique, de partir d'un lieu, de le reconnaître, d'en faire un peu, d'une certaine manière, l'analyse la plus approfondie, la plus précise possible, et essayer de voir en quoi ça peut rejoindre les besoins qui ont été repérés sur le site.
Alors, on va peut-être revenir sur le social, parce que c'est un point très important. J'ai l'impression, Elisabeth, vous pouvez intervenir quand vous voulez, évidemment. La question du social est souvent mise de côté. Enfin, quand on parle de l'architecture, on parle du geste architectural, on parle d'une image, on parle éventuellement d'une rentabilité, etc. Et toi, tu es excessivement attentif à ce qu'on appelle le droit au logement.
Oui. Je pense que ça fait partie des éléments de sécurité sociale aujourd'hui. Au même titre que la sécurité sociale pour la santé, au même titre que la couverture, l'assurance chômage et ce genre de choses, ça fait pour moi le logement, depuis la loi Dalloz, fait partie d'une forme d'assurance sociale. Et c'est une grande avancée que cette loi, malheureusement aujourd'hui, elle a du mal à satisfaire, à remplir ses objectifs. Et donc, c'est moi ce qui m'intéresse dans la question du logement. Aujourd'hui, le logement, je pense qu'il y a un droit. Et ce droit, il reste à exercer. Je pense qu'une des principales responsabilités de l'architecte, c'est de rappeler ce droit. Ce droit au logement, et notamment tout ce qui, les minima sociaux qui sont inscrits dans ce droit. Ça fait l'objet, moi, d'un travail sur un des premiers travaux de l'atelier que j'ai créé sur la transformation de pavillons hospitaliers en 126 logements. Et ce que je ne voulais pas, c'est que ça devienne justement un centre d'hébergement. Je me disais que ce dont avaient besoin les gens, ce n'était certainement pas d'un hébergement, c'est-à-dire habiter chez l'autre, mais d'un chez-soi. Et ça a démarré toute une réflexion autour de la transformation à la fois des existants et puis autour de la question du logement, de la domiciliation et tout ce qui va avec.
Alors, comment tu pourrais expliquer à des non-architectes qui nous écoutent ce que c'est qu'un logement, précisément ?
Alors, au sens du droit, ça doit répondre, si c'est la question. Alors, parce que pour moi, j'ai deux façons de travailler. Il y a la question du logement, qui est celle du droit, et la question du chez-soi, qui est celle de l'habiter, en fait, qui est celle qui rejoint l'édito que tu as dit en première partie, c'est-à-dire que je pense que quand on commence à penser le chez-soi ou chez l'autre, d'un seul coup, on se met à penser l'espace du logement, ou en tout cas le logement, d'une autre manière, dans sa capacité à être approprié.
Alors justement, est-ce que tu serais d'accord avec Patrick Bouchain, mais d'autres aussi l'ont dit, que c'est curieux de qualifier un logement de social, que le logement, c'est du logement ?
D'une manière générale, de qualifier quelque chose de social, c'est qu'il y a un problème, je pense.
Oui, moi aussi. Alors, ta réponse à toi en tant qu'architecte, qui est aussi contraint par un budget, j'imagine, comment réussir à faire un chez-soi quand on a des contraintes de cette nature-là ?
Alors, je pense qu'il faut... On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour parvenir à des habitabilités, justement, je pense que c'est même plutôt la capacité de l'appropriation, c'est que ce soit l'autre qui s'approprie le logement. Et qu'il faut qu'on arrive à réfléchir, à savoir où est-ce qu'on arrête notre travail pour pouvoir offrir cette possibilité à l'autre de l'investir et de s'approprier. Et donc... Et donc, c'est une question d'économie de moyens, en fait. C'est une question sans arrêt de se poser la question de mettre le minimum de matière, en fait, ou déplacer le minimum de matière pour arriver à un maximum de possibilités pour les gens qui y habitent.
Pour l'habitant, ouais. Et donc, du coup, ça veut dire que le logement, tu ne l'analyses jamais comme étant simplement, je reprends une expression très connue des architectes, comme une cellule. Où on va à un appartement ou une maison, voilà, comme ça a pu être en Union soviétique à cette période-là, mais que c'est tout de suite lié, bien sûr, au lieu, au local, qui peut être aussi posséder des ressources, comme la terre, comme la paille, comme le bois, etc. Donc, ta proposition architecturale, elle ne vise pas simplement l'habitabilité de l'appartement, avec, mettons, qu'il soit traversant, que les toilettes et la salle de bain aient une fenêtre, des choses qui sont relativement élémentaires, mais qu'on a oubliées, mais aussi son inscription dans un lieu.
Alors, je pense que tout est inscrit. Le travail d'altérité dont je parlais au début, c'est reconnaître les endroits, les lieux. Ils ont chacun, véritablement, ils ont tous une... Ils sont tous localisés, ils ont tous des propriétés, ils ont tous des qualités, ils sont tous uniques. Et du coup, en travaillant à ça, et surtout, ils sont souvent issus de construction. Il n'y a pas un espace qui ne soit pas construit, qui ne soit pas un ouvrage quasiment aujourd'hui, à part peut-être des endroits où il y a peu d'hommes, mais en général, c'est l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, ce sont une succession d'ouvrages, en fait, sur les siècles. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rentrer en résonance avec ça, avec ces histoires.
Alors, dans tes réalisations, on sent quand même que tu es assez distant de la politique de l'ANRU, de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi tu te distingues d'elle, peut-être le fait qu'il ne faut pas nécessairement détruire?
Oui, alors moi, contre l'ANRU, j'ai absolument rien.
J'ai mal formulé ma question.
Non, alors, je vais juste. C'est qu'en fait, il y a le, je dirais, tous ces quartiers qui font l'objet d'un renouvellement urbain ont été fabriqués quand même dans une rapidité qui fait que les choses n'ont soit pas prises, soit pas tenues, n'ont pas tenu, en fait. Et aujourd'hui, il y a une propension à penser que ces lieux-là, ils seraient obsolètes. Et d'ailleurs, moi, je dis, l'ANRU, je trouve que c'est tout à fait utile de continuer à travailler sur ces lieux, parce que c'est peut-être les plus difficiles aujourd'hui, d'un point de vue de la qualité de la ville.
Et donc ça veut dire, pour les auditeurs, ça veut dire les anciennes grandes cités, quoi,
c'est ce qu'on appelait les ZUP, zones à urbaniser en priorité.
D'accord. Voilà.
Et après, non, là où je suis plus critique, c'est sur les décrets ou les arrêtés qui donnent des instructions dans la manière de réaliser le renouvellement. Moi, je travaille beaucoup dans les existants, parce que je considère qu'on doit peu construire aujourd'hui. On doit surtout bien entretenir le patrimoine assez important. Quand on voit les milliers de mètres carrés vides, et puis quand on voit tous ces logements vacants, on se dit qu'il y a peut-être un travail sur l'organisation et la mise, en service de toutes ces utilités. Donc, quand je travaille sur un quartier d'une manière générale, ou quand je travaille sur un ouvrage existant, j'essaie de démolir au minimum. J'essaie de faire en sorte que les capacités, si elles peuvent être prolongées dans le futur, on les récupère et on les amende pour arriver au niveau de confort d'aujourd'hui, au niveau de qualité, au niveau de vie du futur. Et donc, quand on lit dans un arrêté que... pour moi, l'outil de démolition, c'est juste pour transformer, pour améliorer. Donc c'est circonspect, ça traite juste des ouvrages qu'il s'agit de transformer. Et dans le milieu urbain, sur ce type d'opération, moi j'ai un sentiment, c'est qu'on a inversé le moyen et la fin. Puisqu'aujourd'hui, on a comme fin la démolition. C'est écrit, c'est peut-être même le premier article de l'arrêté. Et donc, quand on met comme fin la démolition, et qu'en plus on met des aides qui vont pour, on crée ce qu'on appelle un effet d'aubaine. On se dit, on va faire du remplacement. Donc on efface. On efface et on recommence. Des choses qu'on a faites à la même époque des ZUP, ce qu'on appelait la résorption d'habitat insalubre, hiérarchie. Donc ça, moi, je considère qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens. Surtout quand on sait que la démolition-reconstruction, ça coûte en prix, en coût, en euros, 2,2 fois plus qu'une bonne rénovation-restructuration pour atteindre le même niveau de confort, voire meilleur. Et puis, pour une démolition-reconstruction, on arrive à presque, quelquefois, jusqu'à 9 fois plus de gaz à effet de serre qu'une opération de restructuration. Donc quand on met ça en corrélation avec la soutenabilité, on s'interroge et du coup, on reste circonspect à l'idée de démolir.
Alors comment t'expliques que c'est quand même ce volet démolition qui semble encore l'emporter? Est-ce que ça valorise l'architecte qui du coup dit, on démolit un bâtiment et moi je vais montrer le mien? Est-ce que c'est plus valorisant que de dire je garde déjà là pour en faire autre chose de mieux?
Je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène, je pense que c'est tellement plus facile de ne pas prendre en considération le site et avoir de l'attention. C'est tellement plus facile d'effacer la page et de la recommencer, dans le fond, pour tout le monde. Hein. C'est plus facile. Donc là, il y a une forme de, je dirais, de facilité. Et puis, l'autre point, je pense que la crise du logement aujourd'hui, elle est grandement liée à la spéculation du logement. Aujourd'hui, on en a des prix absolument sidérants, des augmentations qu'on n'a jamais vues dans l'histoire du logement, en fait. On est dans des prix qui sont complètement affolants. Et du coup, la vraie problématique, c'est de trouver du foncier. Et donc, une façon de faire du foncier dans une nappe urbaine déjà existante, eh ben, c'est d'aller chercher là où c'est des lieux qui ont été fabriqués et qui sont à peu près uniformes, et pour fabriquer du foncier.
D'accord. En supprimant ces bâtiments, on libère du foncier. Voilà. C'est ça, d'accord. Okay. Et justement, cette question du foncier est directement liée à une politique, évidemment, de l'État d'une part, des municipalités, des promoteurs, des bailleurs, etc. Et toi, comment, dans ton expérience personnelle, est-ce que tu peux nous raconter un exemple où on t'a sollicité pour éventuellement démolir un bâtiment, et puis que après ton étude, tu vas convaincre qu'il faut le garder, mais pas le garder comme il est, évidemment, il faut le garder pour le transformer.
Alors, je vais vous parler d'une tour dont le maire, mais je vais pas citer de nom, une tour dont le maire voulait sa démolition. On a été appelé avec une amie, Laetitia Lesage, à essayer d'interroger cette question-là. C'est le bailleur social qui nous... Et donc, on a visité cette tour, on a visité l'intégralité du quartier, et c'est un quartier qui vit plutôt bien. Donc, ou même les appartements sur les petits immeubles qui sont au pied des tours se repassent de famille en famille. Et donc, on voit qu'il s'y passe des choses plutôt agréables. Voilà. La problématique de la tour, c'est que socialement, elle faisait l'objet d'un turnover. Les gens n'arrivaient pas à rester. Donc, et par contre, c'est une tour qui dispose de logements en duplex. Tous les logements sont en duplex et offrent une vue sur la plaine de France absolument magnifique. Et donc, nous, notre travail, ça a été de montrer comment, par des aménagements, des ménagements urbains, comme tu dirais, Thierry, comment réussir à... changer en fait les représentations sur cette tour, changer le regard des gens sur ce patrimoine immobilier et leur montrer qu'il avait une richesse méconnue. Et ça par des aménagements assez circonspects en plus. Voilà.
Et là, le bailleur, il a soutenu.
Oui, oui, le maire a fini par...
L'admettre aussi.
Par l'admettre.
Ouais. D'accord, ok. Bon, et ça, est-ce que c'est des exemples fréquents où tu as des fois eu des obstacles impossibles à franchir?
Alors, moi, dans ce domaine, je n'ai que deux expériences. Hein, et donc, je voudrais pas...
Généraliser.
Ouais. Par contre, ce que je trouve qui peut rejoindre la question des convictions, ce que je trouve, c'est qu'à chaque fois qu'on a été interrogé sur ce sujet-là, on a demandé avec Laetitia d'avoir une forme de carte blanche sur la manière dont on allait aborder le sujet. Parce qu'on ne savait pas, en fait, c'était sur quelle emprise, quand on aborde ces questions-là, c'est des questions qui ont une échelle beaucoup plus large que celle du bâtiment propre. Parce qu'il y a des liens qui se tissent entre toutes ces choses. Enfin voilà, c'est de la ville. Donc. Et donc on veut avoir une espèce de liberté de pouvoir réinterroger ces questions-là. Et on l'obtient.
Alors, tu as aussi une réflexion, tu le disais au tout début, entre l'objet, entre guillemets, architectural, qui est un des plus un, puisqu'il devient un sujet actif, sur le territoire lui-même. Et tu as réalisé une épicerie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que là, c'est un tout petit objet. C'est notre échelle.
Oui, alors...
Et pourtant, cette petite échelle ouvre sur une très grande échelle.
Oui, alors c'est... oui, c'est l'épicerie de ma compagne. Donc c'est une belle histoire. Elle a changé de métier. On est des marcheurs. De retour de Provins, où on avait glané quelques produits en passant dans les villages, Sandrine a souhaité créer une épicerie. Et ça fait partie des réflexions que j'ai dans... j'ai une chance, c'est d'être né dans un endroit qui était à l'interface entre la campagne et la ville, dans le 93. Ça m'a permis de naviguer dans tous ces lieux-là. Et moi, j'ai toujours été surpris, entre l'écart, dès que j'arrive à Paris, de perception... même de mes camarades d'école d'architecture, de perception des choses, des distances qui étaient complètement différentes. Et voilà, l'idée de Sandrine, c'était de dire pourquoi on ne mangerait pas les produits franciliens et pourquoi on ne ferait pas en sorte de les ramener au cœur de Paris pour montrer toutes ces qualités, toutes ces richesses. Et ça rejoint mon travail avec la paille, notamment. Et alors, je pense que la semaine dernière, par exemple, c'est assez drôle parce que alors maintenant, c'est plus que sur Paris, ça va jusque dans le Lot, ça peut même aller très loin. Mais je suis fondé à penser que la ville, c'est avant tout retisser des liens et des liens directs entre les gens. La semaine dernière, par pur hasard, je me rends à l'épicerie des environs et je croise celui qui fournit Sandrine en noix. C'est quelqu'un qui vient de créer son sac dans le Lot. Voilà. Et on blague un petit peu parce que en fait, on fait notre trafic sur le supermarché de Gramma. Enfin, non, sur le parking du supermarché de Gramma. Et je pense que ce sont ces liens-là qu'il faut absolument retisser. Alors ça, c'est plus une question d'architecture, c'est vraiment une question de... Voilà. Et la boutique, elle a été faite avec rien, c'est-à-dire en glanant des vieilles armoires chez Emmaüs, et puis en bricolant, voilà. Ce qui importe, c'est les produits et la manière dont ils ont été faits, quoi. Voilà.
Et donc ces produits, ce sont tous des produits franciliens, plus non, quelques autres non. Du Lot.
Ça a beaucoup évolué, parce que si on respectait si Sandrine ne respectait que ça, ça serait assez ténu.
Oui, assez restreint, voilà. comme éventail quoi, de produits à proposer. Et sur la paille, alors? Parce que ça, elle est où, la paille, dans tes constructions? Elle est dans...
Elle n'y est pas encore.
Elle n'y est pas encore.
Ah oui, non, mais je ne désespère pas, ça devrait arriver assez vite, là, mais...
Et pas seulement pour l'isolation.
Moi, je pense que c'est un matériau comme un autre, en fait. J'ai pas d'a priori sur le sujet. Ce que je trouve intéressant avec l'amener de ces nouveaux matériaux, enfin, si on peut appeler ça nouveau, parce que maintenant, ça fait un peu plus d'un siècle qu'on les, qu'on les utilise. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est en train de créer de la variété. De recréer de la variété dans des choses qui s'étaient quand même grandement appauvries dans les modes constructifs. Donc ça permet même, par exemple, pour une rénovation, de penser des choses complètement nouvelles. Au bureau, on a pensé faire des isolations en paille, et avec l'épaisseur des bottes de paille, on peut réinventer même l'aspect des immeubles. On peut réinventer les rapports entre l'extérieur et l'intérieur des immeubles. Donc on peut vraiment faire des choses très intéressantes. Juste pour raconter, parce que je pense que ça va finir par prendre. Quand on prend un parpaing, pour qu'il fasse la fonction, là, à un moment donné, pour qu'il fasse la fonction de mur, il faut un parpaing, il faut rajouter un isolant, il faut une finition intérieure et une finition extérieure. Depuis plus d'un siècle maintenant au Canada, on a fait des murs à partir de ballots de paille qui sont à la fois porteurs et dont la finition intérieure comme extérieure est faite avec la terre du site. Et on sait aujourd'hui que ces bâtiments-là, avec des techniques constructives extrêmement rudimentaires et très économiques, on sait qu'elles sont plus confortables. Ça va finir par arriver.
Donc tu es plutôt confiant sur l'articulation entre le social et l'écologique.
Oui, mais alors, après la question c'est que tout le monde n'a pas accès au niveau de compréhension de ce qui se joue ici. Quand vous allez dans les centres d'hébergement, c'est pas les questions qui se posent, l'écologie. C'est le chauffage à fond. Parce que c'est des semaines et des semaines à la rue, donc il y a des compensations. Ce sont des comportements complètement différents. Et les questions écologiques passent en 15e plan.
Ah, c'est ça. Ouais. Elisabeth, est-ce que, évidemment, on ne posait pas la question écologique au lendemain de la révolution bolchevique, mais est-ce qu'il y avait des réflexions quand même sur d'autres matériaux, sur d'autres procédés techniques de construction ?
Alors, en réalité, moi, je suis tombée quand même sur quelques sources que je n'ai pas peut-être beaucoup exploitées, mais qui étaient très intéressantes, surtout dans les années 20. Il y avait un débat sur le recyclage des matériaux, et notamment un débat sur le recyclage, sur le tri des ordures ménagères, assez poussé hein, chez certains acteurs, qu'on retrouve évidemment aujourd'hui de manière réalisée ou tout au moins concrétisée, et notamment aussi sur tout ce qui est revêtement. Revêtement du sol, la réutilisation des matériaux anciens, enfin de le concassage et de la compression, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est un débat qui reste voilà, très, très circonscrit, effectivement, dans les années 20. Ensuite, pour les années 30, ça s'est vraiment perdu, au fait, parce que c'était pas ça le... Enfin, encore une fois, on parle à la fois d'urgence et de priorité de valeur. n'était pas les mêmes, effectivement. Et c'était plutôt... le retour à l'architecture monumentale, avec d'ailleurs des contradictions de matériaux, parce que là, l'expression était celle de la pierre et ce n'était pas nécessairement toujours de la pierre. Voilà.
Ça pouvait être du béton.
Voilà, c'était beaucoup souvent du béton. Et moi, j'aurais peut-être une question à Francis, enfin plusieurs, j'aurais eu plusieurs questions, mais ça que leur tourne. C'est vrai que toutes les questions que tu soulèves, elles trouvent quand même un écho dans l'enseignement. Enfin, puis on en discutait un petit peu en aparté, et moi j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment un désir, enfin dans tous les cas, ce que je vois chez les étudiants, à la fois sur ces questions-là, y compris sur la question justement de l'innovation des matériaux, avec certaines écoles qui font quand même des tests, notamment la paille, la terre, évidemment. Certaines sont plus ou moins spécialisées là-dedans. Et autour, il y avait une question que tu avais évoquée qui m'a intéressée sur la petite boutique. Tu as compté ça autour de l'anecdote personnelle, mais c'est une réflexion qui trouve aussi une résonance chez quelqu'un comme David Mangin, qui a fait son travail sur les raies de ville. Et je pense que son travail sur... Justement, où il interroge la dimension des boutiques avec tous les relevés qu'ils ont pu faire dans les différents pays, parce que c'est quand même plusieurs équipes qui ont travaillé sur cette question-là. Et on revient effectivement à la toute petite boutique comme la possibilité de renouvellement urbain, qui est totalement impossible, évidemment, dans les AC, on va être plutôt dans les enseignes franchisées, ou dans les grandes enseignes. Et c'est vrai que c'est une question qui a du mal à atterrir, justement, pour le coup, dans le champ d'enseignement. Quoi. On a du mal à l'amener. Moi j'essaie de l'amener, mais on a l'impression qu'effectivement... C'est une question qui n'est pas forcément une question architecturale, alors qu'elle dessine tellement, effectivement, ces relations dont tu parles, sur lesquelles tu insistes énormément.
Oui, à ce sujet, ça tombe bien que tu en parles, parce qu'actuellement, on travaille sur un immeuble qu'on a réussi à ne pas démolir, donc on est amené à faire en sorte qu'il ne soit pas démoli, et on est amené à le transformer pour l'améliorer. Et il y a deux semaines de ça, on a été interrogé de savoir si les rez-de-chaussée qui n'étaient pas utilisés de façon satisfaisante, ils pouvaient devenir des, des, d'autres services de ville, comme les commerces. Donc on s'est amusé un peu à dessiner sur ce pied d'immeuble, savoir à dessiner comment on pourrait installer des petites boutiques. Et parmi les boutiques, on a pris les proportions de la boutique de Sandrine pour voir comment on arrivait. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a aussi ces problèmes de ces villes-là, c'est qu'elles ont, misé sur des organisations territoriales où c'est très zoné. C'est-à-dire que du coup, les petits commerces, même s'il peut y avoir des densités assez intéressantes, les petits commerces, ils ont du mal à prendre vie, quoi. Voilà. Parce qu'on va en voiture chercher des choses dans des magasins de matériaux hautement manufacturés.
En fait, il faut peut-être revenir, je ne veux pas prononcer ce mot impossible de Gwartal, mais il faut peut-être revenir à inventer justement l'îlot d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui relèverait aussi du quartier un peu à l'ancienne, où il y avait un esprit de quartier, où il y avait toutes ces boutiques. Moi, je n'aime pas trop le terme proximité, je préfère dire de familiarité, où ça fait sens, quoi. Et donc, du coup, l'architecture n'est pas distincte de l'urbanisme ou du paysage ou du design. Et les jeunes collectifs que tu mentionnes, Elisabeth, j'ai l'impression qu'ils ont envie de passer outre, de transversaliser ces formations qui étaient très, très verticales. Parce qu'il y a un architecte qui s'associe avec une paysagiste ou un paysagiste, etc. Et ça, je crois que c'est une bonne chose aussi.
Oui, complètement. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font, je trouve. Et même justement, chez les paysagistes, puisqu'on en parle, et tu parlais tout à l'heure de ce rapport avec le paysage francilien. Je ne sais pas si tu connais la recherche de l'agence initiale, en fait, de ces deux paysagistes de l'agence initiale qui ont fait ce travail sur qui font partie du collectif Paysage après pétrole, qui ont fait cette proposition en répondant à l'assiette vertueuse. C'était une commande de Solagro, où ils imaginent les paysages que ça va produire, justement, très concrètement, avec effectivement les circuits courts,
des très belles cartes.
Avec c'est de la carte, c'est des grandes vues aériennes qui imprimées font 6 mètres et où effectivement on peut se projeter dans ces différentes échelles.
Assez peu dans ces choses. Je suis plutôt un peu les mains dans le cambouis, si je peux me permettre. Je ne suis pas dans des choses prospectives comme ça. Je pense que les choses peuvent se faire aussi en lieu et place et se tirer.
Bien sûr.
Je pense que le programme peut sortir aussi du site et peut-être des besoins locaux. Ces travaux prospectifs sont hyper, hyper intéressants pour voir comment il faudrait faire. Moi, j'ai écouté le Négawatt. Parce qu'il propose véritablement. Et d'ailleurs, il parle du bois terre-paille.
Absolument.
Et parce que je dirais, le travail à réaliser, il est surtout là. Et il est vraiment. Et en plus, il est extrêmement bien documenté. Donc je dirais, s'il y a un avenir favorable, le scénario, il est tout trouvé. Mettons-le en place. Donc il s'agit d'ici 2030 de monter à près de 800 000 logements rénovés par an. Pour pouvoir. Pour pouvoir atteindre les performances de sobriété, puisque le scénario Négawatt, c'est sobriété, efficacité et renouvelable. Donc le premier besoin, c'est quand même de réduire. Donc, voilà. Et notamment, il parlait d'une chose qui, moi, me semble fondamentale, c'est qu'il faut arrêter les petites actions. Quand on travaille sur un immeuble, il faut que ce soit l'intégralité de l'immeuble qui fasse l'objet d'une remise à niveau pour pouvoir nous permettre d'atteindre les objectifs impérieux là, qu'on a à réaliser.
Qui sont notre horizon.
Qui sont notre horizon.
Merci beaucoup à vous deux.
Urbanité. Une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.